J'espère que vous allez bien. Êtes-vous des gens comblés? Oui? Ah oui, mais hein? Hein, on peut se poser cette question-là souvent. Est-ce que je suis comblé? Qu'est-ce qui peut combler ma vie? Hein, des fois, on a cette pensée humaine-là quand on pense aux différentes sphères de nos vies. Si on pense à nos finances, si on pense à l'amour, si on pense au travail, si on pense à la santé. Puis on va regarder ces sphères-là de nos vies, puis on peut se poser la question, est-ce que je suis comblé? Et qu'est-ce qui comble ma vie? Qui s'occupe de moi? Qu'est-ce qui va combler mes différents besoins? Est-ce que je bénéficie, tantôt avant que je continue, on chantait ta bienveillance. Hein? Dieu, il voit nos besoins. Dieu voit ce que l'on a de besoin dans chacune de nos vies. Et est-ce qu'il y a une providence à laquelle je bénéficie? Oui, évidemment. Dieu, il est bienveillant. Dieu, il y a sa providence qui nous remplit. Si les événements tournent bien, est-ce que c'est de la chance? Si les événements, les circonstances tournent mal, est-ce que c'est un abandon de la bienveillance, de la providence de Dieu? Sur quoi est-ce que je compte pour les différentes sphères de ma vie? Je vais vous apporter différentes images. L'argent. J'ai illustré l'argent ici. Vous voyez, c'est un arbre qui pousse, qui fait pousser de l'argent. D'où vient l'argent? En fait, l'argent pourrait illustrer simplement nos différents besoins terrestres, hein, que ce soit le vêtement, que ce soit la nourriture, que ce soit nos différents besoins. D'où viennent ces choses-là? Est-ce qu'on est comblé? Est-ce qu'on est capable de voir d'où viennent ces choses-là? Quand on prie, par exemple, avant de manger, c'est pour dire quoi à Dieu? Pour dire merci de ce qu'il nous donne? Ou finalement, est-ce que ce que je mange vient uniquement de la sueur de mon front, de ce que j'ai travaillé? Si ça va mal, sur quoi je vais compter? Si j'ai de la difficulté avec mes finances, sur quoi je vais compter? Est-ce que je vais compter sur le hasard? Hein? On pourrait se tourner vers différentes choses qui pourraient, d'une façon humaine, combler nos besoins. Que ce soit la loto, que ce soit le casino, que ce soit le bingo, ou tout ce qui finit en haut. C'est quoi qui va combler nos différents besoins comme ça? Est-ce que la bienveillance de Dieu peut combler nos besoins? Ou est-ce que je vais laisser ça s'envoler au hasard, hein? Comme une feuille, ou est-ce que je vais dire, ben finalement, je compte plus sur rien d'autre. Tu peux garder. Est-ce que je laisse ça aller au hasard finalement, puis je laisse les choses aller quand j'ai un besoin? Ou bien, qu'est-ce qui comble mes besoins de mon cœur? Que j'ai une peine d'amour. Que j'ai une peine d'amour. Que j'ai des difficultés dans mon couple. Que ça fasse des années que je suis célibataire. Qu'est-ce qui va combler ce besoin-là? Est-ce que Dieu peut combler mon besoin? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Humainement, on a plusieurs choses qu'on fait et on voit plusieurs fois, des fois, quand on veut soulager notre cœur, quand on veut soulager ce manque-là, pour le combler, on va le confier à quelqu'un. Hein? Quelqu'un qui va peut-être s'en occuper, peut-être le premier venu, ou peut-être quelqu'un qu'on a un petit peu confiance, peut-être moins confiance, mais on va le confier à quelqu'un, puis on va le donner. Notre sphère de nos vies, notre famille, on a des enfants, on a des parents. Si vous n'avez pas d'enfants, vous avez sûrement des parents. Qu'est-ce qui comble vos besoins dans votre famille? Qu'est-ce qui comble vos différents besoins relationnels? Si vous venez à avoir amené des difficultés, par exemple, avec vos adolescents, que vous avez perdu le contrôle, vous ne savez plus comment agir, vous ne savez plus qu'est-ce qui peut intervenir, qu'est-ce qui peut dénouer cette situation-là familiale, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'humainement, on essaie de le combler, puis à un moment donné, on finit que par se décourager, puis on le laisse de côté? Je ne suis pas capable de combler ce besoin-là. Je baisse les bras. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple? J'aurais pas amené plusieurs situations. J'ai apporté, par exemple, une croisée de chemin. Des fois, on veut avoir on veut prendre des choix. On ne sait pas quoi prendre, quoi faire. Est-ce que la providence de Dieu, elle est présente? Ou est-ce que de par moi-même, je vais laisser ça de côté pendant un instant? Je vais attendre au centre. De voir qu'est-ce qui va se passer. Ou est-ce que la providence de Dieu, est-ce que la bienveillance de Dieu, est-ce que Dieu marche avec moi pour me conduire dans mes choix? Puis même, dans ma lutte avec le péché, contre la chair, quand j'ai des difficultés, est-ce que je vais combler ces difficultés-là moi-même? Est-ce que je vais lutter contre le péché moi-même ou est-ce que Dieu peut intervenir? Souvent, ce qu'on fait, celle-là avec celle-là, des fois, quand on veut s'en occuper nous-mêmes, on a de la tentation, on a de la convoitise, on a des choses, des difficultés avec de la lutte. Souvent, on a l'attitude de « je vais m'en occuper moi-même ». Puis on met ça dans notre poche en arrière, puis je vais m'en occuper. Dieu est là. Dieu est présent. Sa bienveillance, elle est là. Et Dieu, dans sa providence, il prend soin de vous. On pourrait croire à la providence d'une façon universelle. Oui, la providence de Dieu, elle est sur l'univers. Et Dieu prend soin de son univers, de sa création. Tout le monde bénéficie de la providence de Dieu. Mais les enfants de Dieu, d'une façon très spécifique, vont bénéficier de la providence de Dieu, de la bienveillance de Dieu sur leur vie. Et quand on se retrouve avec, par exemple, une difficulté, par exemple, avec l'amour, et puis qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire, et puis qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut régler ce problème-là, mais on peut le confier à Dieu, puis dire « Dieu, occupe-toi-en! » Puis Dieu le prend. « Je suis plus capable, Dieu! » Puis là, on se tourne vers lui, puis là, avec la foi que l'on a, on lui confie. Qu'est-ce que je fais quand j'ai des problèmes? Est-ce que je réalise que même tout ce que je bénéficie aujourd'hui sur la terre, c'est déjà à cause de la bienveillance de Dieu, à cause de sa provision, à cause qu'il pourvoit mes besoins? Mais quand vient encore des difficultés, ou peu importe, plutôt que de le confier au hasard ou à Daniel, c'est une farce Daniel, là, parce que c'est toi qui as reçu l'avion, là. Qu'est-ce que je fais? Mais je peux le confier à Dieu dans sa providence. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en occuper. Il va prendre soin de nos besoins. Je prenais le temps d'accrocher les autres tantôt. La bienveillance de Dieu, elle est présente. On peut en bénéficier, chacun de nous, chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu. Il faut retrouver le sens profond de la bienveillance si on veut prétendre à une existence vraiment chrétienne, si on veut vraiment bénéficier de ce que Dieu veut nous accorder. Dieu est à l'ouvrage dans ma vie, dans vos vies, et puis le maître embauche. Le maître, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut m'utiliser, mais il pourvoit à tous nos besoins aussi. L'Écriture ne cesse de dire que Dieu nous entend et que Dieu nous exauce. Parce que Dieu est présent, parce que Dieu est bienveillant sur ta vie. La providence de Dieu est là. Jacques, il dit, mais qu'on demande avec foi, sans douter, qu'on continue d'intercéder à Dieu pour nos besoins, pour nos différentes choses. Dieu lui-même, Jésus lui-même nous a enseigné à prier aussi. On va voir tantôt quelques phrases de ce que Jésus a dit. Hébreux 11:6, je veux juste vous citer, puis après ça, je vais vous inviter à tourner dans un peu ici et là, mais particulièrement dans Exode. Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Croyez-vous que Dieu est le rémunérateur de tout ce que vous avez de besoin? Le rémunérateur, si vous le cherchez, Dieu va pourvoir à vos besoins. Mais pour ça, il faut s'approcher avec la foi. Quand que je lève, par exemple, mes difficultés ou les différentes sphères de ma vie, j'ai besoin de la direction de Dieu dans ma vie, et puis que je le confie à Dieu, mais ça demande de la foi que de dire, « OK, je le lâche. Je te laisse entre les mains, Dieu, puis occupe-toi-en. » Mais c'est ce processus-là que quand je m'approche de Dieu, je le fais avec foi, sachant que Dieu existe, puis sachant que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On peut toujours compter sur Dieu. Tu peux toujours compter sur Dieu. Lui seul peut combler tous tes besoins. Après les grands drames de notre temps, est-ce qu'il est encore possible de croire que Dieu intervient dans notre monde en faveur de l'homme et envers les enfants? Mais oui. Croire à la providence de Dieu est une invitation en ces temps incertains à vivre les événements dans la confiance. La sagesse biblique nous propose l'image de la traversée du désert. En marche vers la terre promise, Israël apprend à vivre en totale dépendance. Dans cette insécurité, Dieu pourvoira à tous leurs besoins, à tous les besoins de son peuple. On va tourner dans Exode. Je vous invite à tourner dans Exode On va regarder différents passages. Et ces mêmes applications-là qu'on va trouver de Dieu avec son peuple se retrouvent aussi dans la Nouvelle Alliance, où ce qu'on va voir que c'est aussi vrai pour nous, ces choses-là. Dieu prend soin de nous. Je vous invite à tourner dans Exode 13, à partir du verset 17. On va voir trois raisons ce matin. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que tu peux toujours compter sur Dieu. Tu peux toujours compter sur Dieu dans tous tes besoins. On peut toujours compter sur lui. Puis on va voir trois raisons ce matin. Pourquoi est-ce que je peux compter sur lui? J'imagine qu'on aurait pu en voir plus. Mais trois raisons à travers l'exemple du peuple d'Israël qui sort de l'Égypte et qui est conduit par Dieu. On va voir trois raisons avec ces événements-là. Pourquoi est-ce que je peux compter sur Dieu? Pourquoi est-ce que je peux toujours compter sur Dieu? C'est ce qu'on va voir à partir de Exode 13. J'aimerais qu'on fasse un mot de prière. Après ça, on va lire. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Tu es un grand Dieu. On est vraiment reconnaissant que tu prennes soin de nos vies, que tu prennes soin de tous nos besoins. Et Dieu, on veut ce matin ouvrir ta parole. On désire que tu nous parles, que tu nous encourages, que tu nous montres ta personne, Seigneur. On veut te découvrir, on veut te connaître et voir comment est-ce que ta providence sur nos vies, comment est-ce que ta bienveillance, elle est présente sur chacun de nous, particulièrement quand on t'appartient en tant qu'enfant aussi. C'est dans ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen. On s'était laissé dimanche dernier avec un texte. Je fais juste vous le citer. Dieu a entendu son peuple quand il était en Égypte. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Dieu avait vu la souffrance, Dieu avait entendu les cris, puis il avait connu ses douleurs. À partir de ce moment-là, Dieu est venu délivrer son peuple, les faire sortir de l'Égypte. Et puis à partir de la sortie, très, très, très tôt, mais le périple commence. Déjà, le peuple de Dieu doit placer sa confiance en l'Éternel. Pourquoi Dieu nous fait emprunter des chemins? Des fois, on pourrait arriver à un point dans nos vies, pourquoi est-ce qu'il se passe cette chose-là dans ma vie? Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a ce détour-là présentement dans ma vie? Pourquoi je suis en train de vivre ça présentement? Pourquoi est-ce que les circonstances, ces événements-là se passent dans ma vie? Regardez deux versets dans Exode 13. On va lire le verset 17 et 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Déjà deux versets. Dieu sait, je disais tantôt qu'on peut toujours compter sur Dieu, on peut toujours compter sur lui parce que Dieu te connaît, parce que Dieu nous connaît. Dieu sait qui je suis, Dieu sait qui tu es. Et dans cette connaissance-là, on peut toujours compter sur lui parce qu'il nous connaît. Dieu connaissait son peuple et Dieu sait ce que je peux supporter ou ce que je ne peux pas supporter. Quand que Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte, il y avait le chemin le plus court. Le chemin le plus court, on vient de le lire ici au verset 17, c'était le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. C'était le plus proche par lequel il aurait pu passer. Mais Dieu a décidé de ne pas faire passer son peuple par ce chemin-là. Dieu, il y avait un autre chemin qui pouvait les faire passer, et c'était celui du désert qui aboutissait à la mer, qui aboutissait à une impasse terrestre. Et Dieu il a préféré faire passer par ce chemin-là, son peuple, parce que l'autre chemin qui était le plus proche, Dieu connaissait la raison pour laquelle il ne devait pas le faire. Regardez, car Dieu dit, fin du verset 17, « Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Dieu connaissant son peuple, Dieu connaissant la possible réaction de son peuple, a dit, on ne le fera pas passer par là, on va le faire passer par le désert et jusqu'à la mer. Dieu savait ce que son peuple avait besoin. Dans les deux cas, la toute-puissance de Dieu pouvait les mener à bon port, mais Dieu savait pertinemment que son peuple n'était probablement pas prêt spirituellement pour la guerre. Alors il a choisi l'impasse de la mer. Dieu a intentionnellement fait faire un détour à son peuple parce qu'il savait que c'était ça, que son peuple, c'était par ce chemin-là que le peuple devait passer. J'aimerais vous inviter à tourner dans Nombre, chapitre 20. Je On peut toujours compter sur Dieu parce que Dieu nous connaît. L'Éternel connaissait son peuple. Déjà, il le savait qu'en faisant passer par le chemin le plus proche, bien, que son peuple serait probablement craindrait la guerre et aurait envie de retourner en Égypte. Et il l'a mené dans l'autre chemin. Il y avait un autre détour à un moment donné que le peuple a fait. Vous savez, Dieu a choisi intentionnellement un détour pour son peuple. Est-ce que Dieu peut faire ce qu'il veut dans ma vie? Me connaissant, est-ce que Dieu peut décider de dire « Non, je ne ferai pas passer David par là, parce que je préfère qu'il passe par là, parce que je le connais et je sais que c'est ça qui est bon pour lui. » Peut-être qu'on ne comprend pas, on se dit « Ben voyons, le chemin le plus proche, c'est ça. La chose la plus évidente, c'est ça. Il me semble que c'est ça qui devrait se passer dans ma vie. » Et puis, il se passe autre chose. Mais je dois compter sur Dieu, que Dieu, dans sa providence, a pourvu un autre chemin et que Dieu va continuer avec sa bienveillance de bénir ce chemin-là, même si c'est un détour, même si dans cet autre chemin-là que Dieu a pourvu, j'arrive devant la mer. Un autre détour qui s'est passé dans Nombre 20, verset 14, on va lire à partir du verset 14. Dans quel chemin, dans quel intersection. Tantôt, je vous montrais, on se trouve à une intersection. Dans quel chemin Dieu se trouve? Dans quel chemin la providence de Dieu se trouve? Et des fois, on est confronté devant des choix, puis on a besoin que Dieu intervienne, on a besoin que Dieu nous guide. Et à un moment donné, le peuple s'est retrouvé devant un autre chemin qu'il aurait souhaité prendre. Nombre 20, on va lire à partir du verset 14. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Ainsi parle ton frère Israël, tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps, mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. » Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Israël envoie un messager. Il arrive en bas. Il s'en va vers Canaan. Il arrive en bas où est le peuple d'Édom. Et là, Moïse envoie un messager au roi d'Édom puis dire, est-ce que tu connais nos souffrances? Parce que les Édomites, les Israélites, sont des frères. Si on recule quand on recule dans l'histoire avec Ésaü et Jacob, et puis Israël se trouve devant ses frères, devant les Édomites. Et puis c'était le chemin le plus court. Et puis là, il commence à dire, te souviens-tu? Nous, on était en Égypte, on était esclaves. On a souffert, comment est-ce qu'on était maltraité par les Égyptiens. On a crié à Dieu, Dieu nous a fait sortir. Maintenant, on est sur le bord du chemin, on aimerait passer sur ton territoire. On va suivre la route, on va passer droit, on touchera à rien, puis on aimerait aller dans notre territoire que Dieu nous a promis. Et là, on arrive au verset 18. Édom lui dit, « Tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Les enfants d'Israël lui dirent, « Nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. » Il répondit, « Tu ne passeras pas. » Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et en main forte. Ainsi, Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire, et Israël se détourna de lui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne d'Or. Regardez 21:4. Ils partirent de la montagne d'Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom, le peuple s'impatientant en route. Les Israélites sont sur le point d'entrer. Ils veulent passer par un chemin court. Ils ont souffert. Ils sont dans le désert. Ils veulent passer par ce chemin-là. Puis les Édomites leur disent non. Quelle est leur réaction? Mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. T'as vu tout ce qu'on a vécu? Fais-nous passer, on veut continuer. Il me semble que ça serait bien plus facile de couper droit. Des fois, on a cette impression-là, comme je disais tantôt, qu'on doit passer par tel chemin. Mais vais-je faire la guerre à mon frère parce que c'est là que je dois passer? Vais-je accepter de faire un détour, de renoncer à mon intérêt pour l'amour de mon frère? Dieu, des fois, planifie des détours dans nos vies. Et dans ces détours-là, Dieu pourvoit. On peut compter sur lui. Et des fois, Dieu nous laisse faire des choix. Et dans ces choix-là, Dieu veut qu'on respecte ses préceptes. Dieu veut qu'on mette en pratique l'amour, comme par exemple Israël envers les Édomites. Et puis, il a dit, c'est correct, je passerai pas et je vais contourner. Et encore dans ce choix-là que de dire, c'est correct, je ferai pas la guerre à mes frères, mais Dieu a béni ce choix-là. Dieu a pourvu encore à son peuple, même ce détour-là. Évidemment, le peuple, on vient de le lire, s'impatienta en route. J'aimerais que vous tourniez dans 1 Corinthiens 10. Dieu avait fait faire un détour à son peuple. Le peuple s'est trouvé à un moment donné devant une situation où ce que eux aussi ils ont décidé de se détourner pour plaire à Dieu, j'imagine dans leur amour envers leur frère, ils ont décidé de ne pas faire la guerre. Et même dans ces choix-là, même dans ces détours-là, le peuple pouvait continuer de compter sur Dieu parce que Dieu les connaissait. Dieu connaissait ce qu'ils avaient de besoin. Et heureusement, le peuple a connu Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il devait faire aussi. On peut toujours compter sur Dieu parce que Dieu nous connaît. Et j'aimerais que vous regardiez 1 Corinthiens 10 à partir du verset 9. « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. » En passant, les serpents, c'est arrivé juste après. Quand ils ont contourné les Édomites, ils ont commencé à s'impatienter puis à murmurer. Et c'est là que Dieu a envoyé les serpents brûlants. « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Croyez-vous ça? Croyez-vous que Dieu vous connaît à un tel point qu'il sait ce que vous avez de besoin? Qu'il sait les choses qui sont des tentations pour vous et Dieu ne vous tentera pas au-delà de vos forces. Mais encore plus, Dieu, non seulement il ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces parce qu'il nous connaît, chacun d'entre nous, mais en plus, il pourvoit le moyen d'en sortir aussi. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu avait pourvu un détour, par exemple, à Israël. Et qu'est-ce qui est arrivé quand ils sont arrivés devant la mer? Ils se sont découragés. On arrive devant la mer. Et puis, est-ce que Dieu a arrêté là son engagement avec eux? Absolument pas. La providence de Dieu, elle est encore présente. Dieu l'avait dit par Moïse, vous allez voir avec de grands prodiges la délivrance que Dieu va vous accorder. Ils sont arrivés devant la mer et puis ils ont été découragés. Pourquoi est-ce qu'on va là finalement? Est-ce que Dieu finalement il a oublié son engagement envers nous? Mais non, et on connaît la suite de l'histoire, comment est-ce que Dieu a ouvert la mer pour faire passer son peuple. Mais est-ce que j'ai la foi que Dieu continue de pourvoir? Quand j'arrive dans des situations dans ma vie où je suis peut-être découragé, où c'est peut-être impressionnant, où j'ai l'impression que ce n'est pas possible, est-ce que j'ai encore la foi que de dire, je vais te confier Dieu mes difficultés. Je vais te confier Dieu que même si tu décides de me faire passer par ce chemin-là, tu vas continuer de pourvoir à mes besoins. Ta bienveillance va demeurer sur ma vie. Est-ce que vous avez la foi, cette foi-là, que Dieu prend soin de vous? On peut toujours compter sur lui, mais pour compter sur lui, il faut avoir cette foi-là que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu peut choisir pour moi le détour, connaissant mon cœur, puis il va pourvoir quand même. Dieu peut me laisser choisir la route et je devrais choisir des chemins qui me plaisent, peut-être pas nécessairement, mais qui plairont à Dieu, puis Dieu va pourvoir. La bienveillance de Dieu sera sur ma vie aussi. On peut toujours compter sur Dieu. La deuxième raison que j'aimerais qu'on retienne ce matin, on peut toujours compter sur Dieu parce que dans sa providence, Dieu me comble de sa présence. Dieu me connaît et je peux tout compter sur lui. Mais je peux compter sur lui parce que Dieu m'accompagne, parce que dans sa providence, Dieu me comble de sa présence. Revenez dans Exode 13. On prend encore l'exemple du peuple. Comment est-ce que Dieu agit avec son peuple? Il n'a pas seulement dit, OK, je vous délivre, on envoie les plaies sur l'Égypte, maintenant, débrouillez-vous, sortez, allez-vous-en. Ben non. Dieu, quand il nous a sauvés, il nous a pas seulement dit, maintenant, je t'ai sauvé de tes péchés, tu peux aller au ciel, maintenant, on laisse les choses aller. Et puis, organisez-vous. Non, Dieu fait pas ça avec nos vies. C'est un peu comme moi avec mes enfants. Si je suis un père qui donne sa providence sur ses enfants, je vais pas seulement juste leur donner la nourriture ou leur donner un toit ou leur donner des fournitures scolaires. Mais j'imagine qu'en tant que père, en tant que mère pour ma femme, le plus important, c'est d'être présent auprès de mes enfants, de leur faire bénéficier d'une relation enfant-parent. Et c'est ce que Dieu veut nous faire bénéficier. C'est pour ça qu'on peut compter sur lui. Parce que Dieu, dans sa providence, me comble de sa présence. Souvent, pour ma part, je peux parler, on oublie cette grande bénédiction qui est d'avoir la présence de Dieu dans ma vie, continuellement, en permanence. Et regardez l'attitude de Dieu qu'il avait avec son peuple. On lit les versets 21 et 22 dans Exode 13 toujours. On est à la sortie. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Voyez-vous l'attitude de Dieu avec son peuple? Comment est-ce qu'il avait un intérêt pour son peuple? Il n'aura pas simplement dit « allez-vous-en », mais Dieu les a accompagnés. L'Éternel, regardez la première chose, l'Éternel allait devant eux. Dieu était présent, il était au-devant d'eux. Pourquoi? Pour les guider le jour, pour les éclairer le soir, pour qu'ils marchent jour et nuit. La présence de Dieu est dans nos vies pour qu'on marche, pour qu'on avance, pour nous guider. Dieu nous accompagne pour nous guider, pour nous éclairer. Et est-ce que Dieu, à un moment donné, s'est tanné puis il les a quittés? Non. Le dernier verset dit, « La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple, ni le jour, ni la nuit. » Dieu était constamment là pour son peuple. On peut toujours compter sur Dieu parce que Dieu m'accompagnera lui-même. Parce que Dieu, dans sa providence, me comble de sa présence. Souvenez-vous l'exemple d'Abraham. Abraham, il a eu son fils, Isaac. Dieu vient le voir puis il dit, « Abraham, tu vas aller sacrifier ton fils. » Imaginez pendant un instant être dans les souliers d'Abraham. Est-ce que son univers pourrait venir de s'écrouler? Est-ce que Dieu vient de m'abandonner? Il m'a donné un fils, puis tout à coup, il me demande d'aller sacrifier. Il marchait avec son fils Isaac. Souvenez-vous la question d'Isaac? Et où l'agneau? Souvenez-vous la réponse d'Abraham? Dieu pourvoira. Dieu va pourvoir. Inquiète-toi pas avec ça. Imaginez la foi d'Abraham. Est-ce qu'on a cette foi-là qu'en toutes circonstances, peu importe ce que Dieu me demande, Dieu pourvoira? Abraham n'avait pas la perspective que tout à coup Dieu vient de l'abandonner. Il sait que Dieu va pourvoir. Et comme de fait, quelqu'un est venu pour le sacrifier, au point qu'il a levé la main, un ange l'a retenu, et puis Dieu a pourvu un autre sacrifice. Dieu a pourvu. C'est justement le nom qu'il a donné à cet endroit-là. Dieu pourvoira. Dieu a pourvu. L'esprit qui est dans nos vies, l'esprit que Dieu nous donne, qui habite en nous en permanence, nous conduit, nous enseigne, nous éclaire, nous rappelle les choses, nous donne sa force. Qui a le privilège que d'avoir Dieu avec nous? Est-ce qu'on réalise le privilège que l'on a en tant qu'enfant de Dieu que d'avoir l'Esprit de Dieu qui habite en nous? Ça, c'est bien plus que la nuée qui suivait l'arche. Parce que chacun d'entre nous, de façon individuelle, on a la présence de Dieu immédiate dans nos vies. Ça, c'est ce que la Nouvelle Alliance nous accorde. Et est-ce que l'Esprit peut nous quitter? Est-ce qu'à un moment donné, l'Esprit va nous quitter? On a lu tantôt dans l'Ancienne Alliance, avec la colonne, jamais n'a quitté le peuple. Dans ma vie, encore moins, puisque cette nouvelle alliance-là me donne un sceau. Éphésiens 4:30, ce sceau-là, c'est l'Esprit qui m'a scellé pour le jour de la rédemption. Ça veut dire qu'une fois que Dieu a dit « t'es mon enfant », il m'a donné son esprit et voici le gage, voici le sceau qui demeure jusqu'à la fin, jusqu'au jour de la rédemption et jamais Dieu va te quitter. C'est pour ça que tu peux compter sur lui. Peu importe ce qui se passe, que ça soit des difficultés, par exemple, dans tes besoins immédiats, qu'est-ce qu'on fait? Mais Dieu, il est présent. Il va les combler, nos besoins. Que ça soit, à un moment donné, on construit une croisée de chemin, on ne sait plus quoi faire. Dieu, il est présent. Dieu marche avec moi. Dieu va me conduire si je suis sensible à lui. Qu'est-ce que je fais avec mes problèmes, mes difficultés, que ce soit parce que ça fait longtemps que je suis célibataire, que j'ai des difficultés de couple, que peu importe qu'est-ce que j'ai des douleurs dans le cœur, à qui je vais les confier? Dieu, il est présent. Dieu va m'accorder son amour. Dieu va prendre soin de moi. La même chose avec les besoins que j'ai dans ma famille. On peut toujours compter sur lui parce que Dieu est avec nous. Est-ce qu'on réalise cet avantage-là? Paul il dit à Romains 8:16, l'Esprit rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Continuellement, l'Esprit de Dieu est avec nous pour nous rappeler qu'on est ses enfants. Continue, je suis présent, je suis avec toi, avance, on va marcher ensemble. On n'a pas lu encore l'exemple du peuple qui a reçu la manne, qui a reçu l'eau, qui a reçu du repos, mais toutes ces histoires-là qui sont arrivées avec le peuple sont l'ombre des choses qui devaient venir. Le pain qui tombait du ciel, Jésus a dit, « Je suis le pain. Je suis le pain qui est envoyé du ciel. » Imaginez la présence de Dieu, le peuple qui mangeait la manne à tous les jours. Mais nous, on a la présence de Dieu, de Jésus avec nous. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. C'est l'eau que Jésus offre. C'est l'eau que j'ai déjà bu. C'est l'eau que Dieu par laquelle peut me combler. Dieu témoigne de sa présence, entre autres, par la connaissance de sa volonté. Et en nous donnant aussi des gens près de nous pour nous accompagner. Je disais tantôt qu'on peut toujours compter sur Dieu, parce que Dieu, dans son amour pour moi, va me combler de sa présence. C'est pour ça que je peux compter sur lui. Et quand Dieu est présent avec moi, il me fait connaître sa volonté. On ne lira pas nécessairement le texte, mais le peuple est resté longtemps au Sinaï pour recevoir la volonté de la connaissance de ce que Dieu désirait, recevoir la loi. Dieu n'était pas insensible du fait de dire « Je vous envoie dans un autre pays, puis maintenant, organisez-vous en tant que peuple. » Dieu a pris le temps de l'organiser, son peuple. Dieu a fait connaître sa volonté. Est-ce que Dieu nous fait connaître sa volonté? Hein? On est en train de la lire. On peut la lire, sa volonté. On peut la connaître. La présence de Dieu, je peux en bénéficier aussi de par sa parole, parce que Dieu va me parler. Dieu, d'une façon claire, avait communiqué à son peuple, de par sa présence, sa volonté aussi, pour que le peuple puisse la lire, pour qu'il puisse la comprendre, pour qu'il puisse la méditer, pour qu'il puisse la mettre en pratique afin d'être heureux et de réussir. C'est ce que Dieu a rappelé à Josué juste avant d'entrer en terre promise. Il a dit, « Je te fais connaître ma volonté maintenant. Apprends-la, médite-la, pratique-la. » Puis je vais être avec toi. Tu vas réussir, je vais être au-devant de toi. La présence de Dieu dans ta vie te garantit aussi que Dieu est au-devant de toi pour tes adversaires. Tantôt, je vous montrais comment est-ce que je lutte avec le péché, comment est-ce que je lutte avec la tentation. Mais l'Esprit de Dieu qui est avec moi m'aide à combattre les désirs certainement de la chair ou ce que je peux les confier à Dieu. Le peuple, quand ils avançaient, Dieu était au-devant d'eux, puis chassait les ennemis. Puis Dieu prenait soin de son peuple. Et les ennemis ne pouvaient rien faire contre Israël quand que le peuple d'Israël avait pleinement confiance en l'Éternel. Quand j'ai confiance en Dieu, quand je lui donne ma vie, quand je lui dis les difficultés que j'ai dans ma vie, par exemple la lutte avec la tentation, avec la convoitise, peu importe quel est le péché, la présence de Dieu fait en sorte que Dieu veut être au-devant de moi, que Dieu veut m'aider à lutter contre l'adversaire aussi. Et Dieu met des gens auprès de moi pour m'accompagner, pour me témoigner aussi, pour me rappeler de la présence de Dieu dans ma vie. On peut toujours compter sur Dieu. J'aimerais vous parler des conducteurs d'Israël. Moïse. Moïse était le conducteur du peuple. Et Dieu a pourvu Moïse au peuple. Dieu a pourvu Aaron au peuple. Dieu a pourvu les 70 anciens au peuple aussi, que de façon à ce que Moïse pouvait conduire le peuple aussi dans la volonté de ce que Dieu désirait. Et Dieu met des gens près de nous pour nous aider, pour nous accompagner aussi. Dans ce même sens-là. La présence de Dieu me donne la protection contre l'adversaire, la direction dans ma vie. Il nous dirige au fur et à mesure dans notre marche avec lui. Je vais juste vous citer, je vous demande de tourner avec moi dans Romains 8. Jacques, il dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Première des choses, soumettons-nous à Dieu. La présence de Dieu, elle est là. Dieu est avec moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais me soumettre à lui. Et ensuite de ça, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Quelle promesse que j'ai! Est-ce qu'on réalise la bénédiction que d'avoir Dieu avec moi en toutes circonstances. En toutes circonstances. Jonas n'était pas assez loin pour être séparé de Dieu. C'est vrai pour moi aussi. Peu importe où je suis, peu importe ce qui se passe, je ne serai jamais assez loin pour que Dieu ne soit plus là. Romains 8. Que dirons-nous donc à l'égard? Romains 8, 31. On en a lu un bout tantôt dans le même secteur. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu va nous donner toutes choses avec lui. La providence de Dieu sera là. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Y a-t-il quelqu'un qui peut t'accuser? Y a-t-il un adversaire qui peut te prendre au piège puis t'accuser? Dieu intercède pour toi. Dieu veut qu'on soit près de lui. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, la dernière phrase, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu peux toujours compter sur Dieu. Tu peux toujours compter sur lui parce qu'il va toujours te combler de tout ce qu'il a et premièrement de sa présence. Dieu va être avec toi. Dieu va t'accompagner. Je vous demande de revenir avec moi dans Exode. Je fais juste vous citer, je vois le temps qui passe, et puis je veux juste vous citer quelques versets. Exode 14, quand le peuple était rendu devant la mer Rouge, découragé par ce détour-là, découragé par la mer qui était devant eux, Dieu a dit, Moïse a répondu au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance. » Ne craignez rien, Dieu y est là. Restez en place. Souvent, quand on est inquiet, souvent, quand on cherche à combler nos besoins par nous-mêmes, on ne reste plus en place. Puis on commence à chercher toutes sortes de moyens, comme je disais tantôt, pour combler nos besoins de différentes choses. Restez en place. Regarde la délivrance que Dieu va accorder, que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et si Moïse pouvait dire ça, c'est parce qu'il savait que l'Éternel était présent. Est-ce que tu te souviens que Dieu est présent? Est-ce qu'on se souvient que Dieu est présent dans ma vie qui m'accompagne? Exode 15, on termine avec ça. La troisième raison que je vais vous laisser, on a dit tantôt, première, on peut toujours compter sur Dieu parce que Dieu me connaît. Je peux toujours compter sur Dieu parce que Dieu va me combler de sa présence. Je peux toujours compter sur Dieu parce que Dieu s'occupe de tous mes besoins. Tous mes besoins terrestres. Dieu n'est pas dur. Dieu ne prend pas plaisir à faire souffrir son peuple. Dieu connaît les bons spots dans le désert où ce qu'ils peuvent boire, où ce qu'ils peuvent avoir du repos, où ce qu'ils peuvent avoir de l'ombre aussi. Dieu veut pourvoir à tous leurs besoins. Pourquoi le peuple n'en a pas toujours profité? Pourquoi le peuple n'a pas profité de ces bons spots-là? Bien, en fait, ils en ont profité, mais ils n'en ont pas profité de leur cœur. On peut toujours compter sur lui parce que Dieu s'occupe de tous nos besoins. Exode 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Alors, ils sont partis avec des ressources, ils sont partis avec des choses à boire, des choses à manger, mais là, ça fait trois jours. Puis là, on commence à avoir la langue pâteuse un peu. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, qui veut justement dire amère. Verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous? » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Jusqu'au verset 27. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. le peuple, ça fait 3 jours qu'il marche. Pourquoi est-ce que Dieu a étiré l'élastique un peu comme ça pendant 3 jours? Je pense que quand que Dieu étire un petit peu l'élastique, il veut voir jusqu'où qu'on va aller pour confier, pour lui confier nos besoins. Quand que le peuple commençait à souffrir de la soif, leur première réaction a été de murmurer contre Moïse, murmurer contre Dieu. Mais Dieu leur a donné de l'eau à boire. Dieu a pourvu de l'eau à boire. Ils ont sorti d'Égypte, ils devaient passer par le désert. Ils n'avaient rien à préparer pour le voyage. Dieu a tout préparé pour eux. Et à chaque jour, Dieu leur donnait de l'eau. Regardons, on va juste aller lire un petit peu plus loin à partir de Exode 16, verset 12. « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasirez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couchée de rosée autour du camp, qui était la manne. Dieu a pourvu de l'eau. Dieu a pourvu du repos au palmier. Dieu a pourvu la manne. Dieu a pourvu des cailles. Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Le peuple pouvait compter sur Dieu. Est-ce qu'on peut compter sur Dieu que Dieu va prendre soin de tous nos besoins? C'est intéressant de voir on va couper court ce matin sur le texte, mais Dieu avait dit, vous allez prendre la manne pour une journée. Je vais combler votre besoin pour aujourd'hui. Ramassez-en pas dans votre frigidaire et n'en gardez demain, ça va servir à rien. Vous allez en avoir pour aujourd'hui. Est-ce que tu peux compter sur Dieu? Est-ce que tu crois à la providence de Dieu qu'à chaque jour, Dieu va prendre soin de toi? Jésus nous a donné ces enseignements-là aussi. Chaque jour suffit sa peine. Dieu veut qu'on s'occupe et qu'on compte sur lui pour nos besoins de tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de sagesse et puis qu'on dépense tout ce que l'on a aujourd'hui. Mais Dieu, dans tous les besoins que l'on a, il comble nos besoins. C'est la prière que Jésus nous a enseignée. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et demain, des fois on chante ça, hein? Mais donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu pourvoit à tous nos besoins aujourd'hui, puis on va lui faire confiance pour demain aussi. Dieu a pourvu l'eau, le repas, le pain, la viande, et Dieu prend de la même façon soin de nous. La providence de Dieu, elle est présente. OK, il me reste encore peut-être pour 30 minutes, mais je vais aller tout de suite à la conclusion. Parce que Dieu prend soin de nous, et là vous allez finir que par plus y croire, parce que les yeux s'apesantissent. Dieu va prendre soin de vous. On peut toujours compter sur lui, parce que Dieu te connaît. Dieu sait ce que tu as besoin. Dieu sait les difficultés que tu as dans ta vie. Et dans les difficultés, dans les manques que tu as, Dieu sait comment combler tes besoins. Dieu sait par quel chemin te faire passer ce qui est bon pour toi. Fais-lui confiance. Dieu, tu peux toujours compter sur lui parce que dans sa provision, il va te pourvoir sa présence, premièrement. Dieu va t'accompagner. Dieu va être avec toi. Dieu t'abandonnera jamais. On peut toujours compter sur lui. Puis on peut toujours compter sur lui parce que j'ai passé plusieurs textes, mais je vais juste vous en lire un. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez de besoin. Dieu, il sait tes besoins. Il les connaît, tes besoins. Inquiète-toi pas avec ces choses-là. C'est pour ça que tu peux compter sur lui. Et des fois, on oublie cette perspective-là, que Dieu connaît mes besoins. On peut lui confier chacun d'entre eux. Et je vous en cite un autre qui est très bon aussi. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Est-ce que Dieu est riche? Mais oui, il est riche. « Avec gloire en Jésus-Christ. » Philippiens 4:19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » La providence de Dieu, la bienveillance de Dieu, on en bénéficie chacun d'entre nous. J'aimerais qu'on termine par un mot de prière. Seigneur, on vient devant toi pour te louer encore, pour t'adorer. On croit que comme le peuple, tu as pourvu, Seigneur, à tous leurs besoins, que ce soit l'eau, le repos, la nourriture, que tu as pourvu aussi à les guider sur la route, tu leur as donné ta présence, tu les connaissais bien. Dieu, on croit à ces vérités-là aussi pour nos vies aujourd'hui et même encore plus. Seigneur, tu nous accompagnes, tu habites en nous, tu pourvois à tous nos besoins, tu les connais tous, tu connais tout ce que l'on a de besoin. On veut te louer pour ça. Tu n'es pas un papa qui est loin, qui ne se soucie pas de ses enfants, qui fait juste pourvoir à nos besoins de loin, mais tu le fais, Seigneur, d'une façon très précise pour chacun d'entre nous. On va en même temps, Seigneur, s'approcher de toi, reconnaissant que c'est toi qui nous donnes toutes choses. C'est toi qui nous donnes la santé. C'est toi qui nous donnes l'énergie. C'est toi qui nous donnes la nourriture. On veut t'adorer pour ça. Seigneur, trop souvent, on peut faire comme le peuple d'Israël et puis chialer ou murmurer, critiquer comme ça se passe pas parce que ça se passe pas comme on voudrait. On veut faire le contraire. On veut te louer. On veut t'adorer. On veut ce matin prendre le temps de regarder tes bontés, de les placer devant nos yeux et te dire merci parce qu'on manque absolument de rien. Seigneur, souvent on manque de confiance aussi. On reprend nos vies en main, peut-être parce qu'on a peur de ce que tu vas en faire. On a peur que tu ne combleras pas nos besoins. Mais on te demande pardon, Dieu, parce qu'on le sait que tu es présent. Tu nous le dis. Et on peut s'en souvenir même dans le passé, Seigneur, comment est-ce que tu le fais à plusieurs reprises, chacun d'entre nous, comment est-ce que tu as pourvu. C'est en nom de ton Fils Jésus qu'on te prie toutes ces choses. Amen.